Aujourd'hui, la masterclass de Lambert Wilson avec Blandine Masson.
Il est temps d'ouvrir cette masterclass avec vous, Lambert Wilson. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous pour cette heure qui vous est entièrement consacrée, disons, à explorer en quelque sorte, on pourrait dire, votre boîte à outils, on pourrait dire ça comme ça. Alors, je me suis demandé si c'était une double ou une triple masterclass, ou un double ou triple entretien, puisque on pourrait dire que vous êtes à la fois, vous êtes acteur, vous êtes chanteur, ou bien un acteur qui aime chanter. Vous nous direz tout à l'heure comment vous voyez les choses, mais aussi metteur en scène. Je vais me risquer comme ça une sorte de petite présentation de vous, et vous me corrigerez si je me trompe, mais on pourrait dire que vous passez comme ça du théâtre au cinéma, à la musique, que vous avez peut-être deux passions pour deux grandes villes, je dirais, Londres et Paris. Je sais que Jacques Lassalle, un metteur en scène important, comme on dit, dit de vous que vous savez vraiment tout faire. Quand il dit vraiment tout faire, c'est... On entend peut-être ce qu'il veut dire. Vous êtes actuellement en tournée avec le spectacle Lambert Wilson chante mon temps. Et puis, quand on regarde comme ça votre filmographie ou l'ensemble des spectacles, c'est impressionnant. En fait, je crois, je sais pas, j'ai compté peut-être 80 films.
Ne comptez pas.
Bon, peut-être qu'il faut pas compter, mais entre 1977, disons, et 2017, c'est absolument impressionnant. Je veux juste redonner quelques petits repères que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez en mémoire. Bon, évidemment, on commence en 77 avec Julia de Fred Zinman.
Zinman, absolument. Oui.
Bien sûr, Rendez-vous de Téchiné, La femme publique de Zulawski, Matrix. Je vais pas tout dire, hein. Hiver 54, Des hommes et des dieux, La Vouivre, tournée par votre père George Wilson. On connaît la chanson de René, des films de Valéria Brunetti-Deschi, Valérie Le Mercier, Hélène Fillière. Tout récemment, Odyssée. Si on parle du théâtre, alors là, on va parler de beaucoup de metteurs en scène, Lucien Pintellier, de Marcel Maréchal, de Jean-Louis Barrault, d'Antoine Vitesse, Harold Pinter, Jacques Lassalle et bien sûr encore George Wilson. Et puis, vous êtes aussi metteur en scène, je l'ai dit, de textes que vous aimez beaucoup. Caprice de Marianne ou Bérénice. Vous avez aussi monté une pièce de Jean-Luc Lagarce qui est très peu montée, qui a été montée par lui d'ailleurs aussi, musical. Vous chantez Mon temps, vous avez chanté ce spectacle qui s'appelle Démons et merveilles, vous chantez, vous aimez la comédie musicale. Et peut-être pour boucler comme ça ce portrait qui est presque trop long, parce que il faut que je vous laisse la parole, moi j'ai envie de dire que vous êtes d'une certaine manière héritier de deux manières, en fait, je dirais, héritier de la tradition villarienne, à travers votre père, George Wilson, donc, qui était donc directeur du TNP, qui a succédé à Jean Villard. Et donc, vous avez été quand même formé, peut-être, par, à la fois par le TNP, par Avignon. Et puis aussi, je dirais que vous êtes héritier de vous-même, dans le sens où vous êtes allé chercher une autre tradition. Vous êtes allé en Angleterre, vous êtes allé à Londres, chercher une autre manière d'apprendre, de faire du théâtre. Ce que je voudrais dire aussi, peut-être qu'on pourrait commencer par ce spectacle, justement, qui s'appelle Wilson chante mon temps. Alors voilà pourquoi je connais bien Christian Scaretti. Je sais que c'est lui qui met en scène ce spectacle. Et Christian Scaretti aime bien rappeler que finalement, c'est tout à fait légitime de faire entrer un répertoire comme celui de mon temps dans un théâtre public. Parce que, à l'époque de Villard, finalement, quand on jouait Brecht au théâtre, quelque part dans une autre salle du théâtre, à Suresnes, au théâtre populaire, au TNP, on chantait, enfin, mon temps était là, d'autres chanteurs comme lui étaient là. Donc je dirais que peut-être ce spectacle, finalement, c'est la synthèse. Vous faites la synthèse avec ça et peut-être que vous sortez de tous les conflits. J'ai lu quelque part que vous parliez des conflits de désir, mais que vous pouviez enfin faire une sorte de synthèse avec ce spectacle de théâtre et de chanson.
Mon agent de cinéma qui s'appelle Laurent Grégoire, qui est un homme merveilleux et intelligent, quand il a vu le spectacle Wilson chante mon temps, m'a fait ce joli compliment et c'était lourdement pesé dans sa bouche. Il m'a dit, là, tu es à ta place. Alors, c'est la synthèse, effectivement, de l'héritage du TNP, de la grande épopée de Jean Villard, celle qu'a partagée aussi mon père, qui a été son assistant pendant 10 ans avant d'être lui-même le directeur du Théâtre National Populaire, et aussi l'héritage familial qui est celui de la revue, finalement, parce que j'avais des grands-parents qui aimaient beaucoup les artistes de la revue française, du cabaret, les gens comme toute cette génération de l'entre-deux-guerres qui faisait du cinéma, mais aussi qui venait de la scène, du musical, Maurice Chevalier, et dont Montand faisait partie. Ce goût pour l'activité mixte, pour un acteur qui consiste à en même temps dire des textes, être drôle, danser, chanter, c'était très apprécié dans ma famille. J'ai envie de dire surtout par mon grand-père, qui, je crois, dans l'histoire familiale, avait été boy aux côtés de Mistinguette à un moment donné, mais peut-être il avait forgé cette réputation. Alors, effectivement, pour Wilson chante Montand, les deux chemins se retrouvent dans l'histoire du TNP. En 52, à Gennevilliers, effectivement, Montand chante. Aux côtés de Gérard Philippe qui lui joue le Cid et de Germaine Montero qui interprète Mère Courage, pendant un week-end extraordinaire où il y avait un grand bal, une chorale, on voyait le Cid, on voyait Mère Courage, et Montand chantait, et il chantait ses chansons engagées, aux côtés de Jean Villard, de l'incomparable équipe du Théâtre National Populaire. Et Christian Schiaretti a recadré finalement la narration sur la vie de Montand, avec tous ces intermèdes de chansons, 30 chansons que nous présentons avec Bruno Fontaine au piano, autour de cet héritage qui est un héritage intellectuel, social, engagé fortement à gauche. Et on raconte l'histoire d'un ouvrier finalement qui a un rêve d'intégration, émigré. Son père avait fui le fascisme en Italie, il s'est installé à Marseille, à défaut d'aller jusqu'à New York finalement. Et ce que raconte finalement entièrement le spectacle, c'est aussi l'histoire de mon père, c'est-à-dire de ces fils d'immigrés qui ont voulu s'intégrer en se dépassant. Par le goût de la langue, le fait d'apprendre plus que les autres, la langue, la magnifier. Et curieusement, c'est l'histoire de mon père, c'est l'histoire de Schiaretti qui est un fils espagnol, c'est l'histoire de Montand qui est un fils italien. Et on se retrouve dans cette construction, ce désir de dépassement intéressant à l'époque actuelle, où on se contente parfois simplement d'une intégration à reculons, ou en tout cas paresseuse. Si Schiaretti ou si mon agent disent « je suis à ma place », je pense qu'effectivement il y a tout un chemin qui me conduit jusqu'à cet état-là, de mélanger la prise de parole de l'acteur et celle du chanteur. C'est pour ça que pour revenir à votre présentation, je dirais que je suis un acteur, donc je chante, parce que j'ai toujours considéré que ces activités-là n'étaient pas très éloignées. En fait, elles le sont quand même un petit peu, c'est-à-dire que chanter, c'est une activité qui nécessite énormément de préparation, qui inclut avant tout la musique. Et tout le monde n'est pas musicien, et tous les acteurs ne sont pas musiciens. Pour moi, c'est une partie énorme de mon métier. Je ne veux jamais me séparer de cette partie de mon métier. Mais elle nécessite beaucoup, beaucoup de travail.
Comment vous travaillez ce chant? Est-ce que ce sont des exercices?
On va revenir d'abord à la genèse familiale. C'est-à-dire que mon père, avant d'être acteur, il était lui-même saxophoniste. Il gagnait sa croûte dans les bals de banlieue. Et il a voulu que mon frère aîné et moi-même apprenions la musique. Et il nous a offert, à un âge assez jeune, un saxophone à l'un et à l'autre. Et il nous écrivait des petites partitions. Il faisait des arrangements jazzistiques. Et il nous a donné le goût de la musique et surtout de l'harmonie. J'ai abandonné assez vite le saxophone. En revanche, on a gardé cette pratique de la musique à la maison. Il réunissait même, pendant plusieurs années, tous les lundis, une sorte de big band de jazz qui était constitué d'acteurs, de musiciens. Certains musiciens classiques y venaient, c'était très joyeux. Et donc, en fait, moi, la musique faisait partie de mon quotidien à la maison. On adorait, c'était très concret. On fallait jouer des instruments, prendre des partitions, les lire. Souvent, avec lui, on écoutait une symphonie avec la partition pour orchestre et il nous faisait suivre la partition. Et on a acquis cette facilité à lire de la musique. Donc je pense que d'abord ça naît là, en famille. Ça se cultive dans une école de théâtre en Angleterre, où je suis allé pendant 3 ans, le bac en poche, et où les modèles devant mes yeux, à Londres, étaient des acteurs qui passaient aussi aisément du théâtre classique shakespearien à la comédie musicale ou à la comédie tout court, commerciale même. Donc on faisait beaucoup de chant, beaucoup de danse. Et puis, ça se termine par l'apprentissage du chant. À 20 ans, en revenant d'Angleterre, j'ai vraiment pris des cours de chant classique. On a découvert, j'avais une voix de baryton classique. J'ai fait quelques concerts, parce que je me suis donné toutes mes chances en me disant peut-être que c'est plus ma voix, celle du chant lyrique. Je me suis fait très peur. Je me suis rendu compte que j'avais pas passé assez de temps dans un conservatoire classique et que c'était une autre vie. Mais j'ai pu, grâce à cette formation, intégrer le chant dans mon métier d'acteur. J'ai fait le chant d'acteur. J'ai fait de la comédie musicale. Ça veut dire que pour pouvoir faire de la comédie musicale ou des tours de chant comme je le fais, il faut que la voix soit en état. Je la travaille régulièrement, je prends des cours de chant régulièrement. Mon instrument, je le travaille tous les jours. Voilà. Et ce qui fait que je peux faire ce qu'on me demande dans ce spectacle Wilson chante mon temps, c'est-à-dire chanter 2 heures, 30 chansons, très compliquées au niveau des rythmes et des arrangements. L'instrument est travaillé, oui.
Alors si on reprend peut-être ce chemin même au tout début, c'est-à-dire comment ça commence, parce qu'il faut bien que ça commence d'une manière ou d'une autre. J'ai retrouvé une chanson que vous chantez et que vous avez écrite, je pense, qui s'appelle L'enfant de la balle.
Je ne l'ai pas écrite, mais je l'ai chantée, oui. Elle racontait beaucoup mon enfance, oui.
Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Dans ce que j'ai pu comprendre ou sentir ou lire, il y a quelque chose très jeune, j'ai le sentiment, comme une destinée ou une décision ou une évidence, une vocation, quelque chose de... Oui, je serai acteur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça?
Pas au début. Ça arrive assez tôt, à l'âge de 13 ans. En revanche, il y a un compagnonnage avec le théâtre. Depuis, alors là, vraiment, la toute petite enfance, parce qu'il faut imaginer que, voilà, la réalité des enfants de George Wilson, directeur du Théâtre National Populaire, présentant des pièces au Festival d'Avignon tous les ans, c'est que, ces enfants, à 4 ans, ils allaient à Avignon l'été écouter du Bertolt Brecht, écouter du Durenmat, et écouter du Sean O'Casey, Et c'est ce que j'ai vécu à côté de ma mère, avec une couverture, tous les étés. Corneille, l'illusion comique. Donc, je comprenais rien. Je faisais semblant de rire avec les adultes quand les adultes riaient pour faire partie du groupe des grands, donner l'impression que j'étais dans le coup. Cela étant dit, tout ce monde-là me plaisait. Je ne pensais pas du tout que je serais acteur un jour, mais j'adorais les lumières, les odeurs. C'était l'époque où les acteurs se maquillaient eux-mêmes. Mon père avait des barbes toujours, il y avait l'odeur de colle, de ces cosmétiques à l'ancienne que les acteurs utilisaient. J'adorais ça, j'adorais les costumes. Toute la partie sensuelle et visuelle du théâtre m'attirait irrésistiblement. Mon père ne faisait pas du tout la promotion de l'histoire du TNP. C'était tout à fait quotidien et à la limite, je crois qu'il ne souhaitait pas que sa progéniture s'intéresse au théâtre. En tout cas, il n'était pas du tout dans un romantisme de la création du TNP et la grande époque de Gérard Philippe, de Maria Cazares et de Jeanne Moreau. Non. Ça, c'est un chemin que j'ai fait tout seul parce que dans le grenier de notre maison, il y avait empilé des disques du TNP, des affiches, les fascicules que les gens connaissent, ceux qui sont allés au TNP dans les années 60, 50, 60, connaissent par cœur ces petits ouvrages blancs avec les lettres rouges. Et là, j'écoutais tout seul, à une époque où les jeunes écoutent plutôt, en ce moment, du hip-hop. Moi, j'écoutais Gérard Philippe et Geneviève Page dans Les Caprices de Marianne, ou Gérard Philippe Suzanne Flon dans On ne badine pas avec l'amour, il y avait un disque, et tout seul, je suis tombé en amour pour ces voix, pour ces textes, pour surtout cette solennité que je pressentais dans l'écoute des disques, c'est-à-dire ce silence tendu dont me parlait mon père de temps en temps, et que j'avais éprouvé une fois en traversant l'énorme plateau du Palais de Chaillot, où était installé le TNP dans les années 60, par exemple. Je devais avoir 11 ans, où j'avais traversé tout seul pour rejoindre la loge de mon père. Et c'était l'après-midi, il n'y avait personne. Ce plateau faisait, 30 mètres d'ouverture, et la salle contenait à peu près 3000 spectateurs à l'époque. Et j'ai senti, à 11 ans, l'appel du vide, c'est-à-dire l'appel du silence. Je suis resté au milieu de ce plateau, je me suis dit, ça doit être incroyable de parler à des gens, d'être en vibration avec eux. Et puis après, c'était fugitif, j'y ai plus jamais repensé. Simplement, une chose étrange m'est arrivée, j'ai accompagné mon père à une grande première de film américain, dans laquelle il avait fait un rôle, c'était le capitaine des mousquetaires dans un film qui s'appelait Les Trois Mousquetaires, de Richard Lester, où il y avait beaucoup de stars américaines. Et là, c'est la partie paillette, la partie superficielle du métier de cinéma qui s'est jetée à mes yeux, et qui a fait vraiment une empreinte indélébile, c'est que la surdimension du visage de l'acteur à l'écran, j'étais pas beaucoup allé au cinéma avant. Ce faste hollywoodien à cette première parisienne, au Normandie, en haut des Champs-Élysées, il y avait des hommes à cheval, habillés en mousquetaires, il y avait un bal masqué, tout ça, je me suis dit, le lendemain, c'est-à-dire à 13 ans, dans la cour du lycée de Rambouillet, je me suis dit, je serai acteur. Mais pas acteur de théâtre, je serai acteur de cinéma. Et là, j'ai commencé à emmagasiner des informations. J'ai commencé à aller voir des films tout seul. Avec mon prof de français, qui était une dame merveilleuse, qui adorait le théâtre, on a fait des pièces de théâtre. J'ai senti l'émotion de la vibration de la voix dans une salle de classe, en lisant Titus dans Bérénice, en faisant effectivement déjà Les Caprices de Marianne. Le pouvoir de la voix parlée et de sa vibration dans une salle. C'était très lié à la musique d'une certaine façon. C'était déjà très lié au chant presque. J'ai trouvé ça irrésistible, ça m'est monté à la tête. J'ai d'ailleurs eu une bonne note en français au bac parce que j'ai présenté Lorenzaccio et c'était en fin de journée, la prof était tellement épuisée qu'elle a dû se dire « Ah, Lorenzaccio, ça change un peu de tous les trucs traditionnels ». Et en fait, j'ai lu Lorenzaccio dans cette épreuve du bac français avec tellement de passion qu'en fait, elle m'a même pas posé de questions sur la pièce, elle m'a simplement donné une très bonne note parce que elle avait compris, j'avais compris le sens de tout ça.
Vous parlez de la musique, vous parlez de l'écoute de ces enregistrements de voix célèbres, de Gérard Philippe, de ces acteurs. Vous êtes allé à Londres, donc vous avez travaillé dans une autre langue que vous avez appris finalement, oui. Puisque vous n'êtes pas né dans l'anglais. Mmh. Est-ce que vous pourriez dire que le métier d'acteur, que ce soit au théâtre ou au cinéma, ça passe aussi finalement tout ce système de l'écoute, et c'est peut-être ça qui est le plus formateur.
Bien sûr, il se trouve que j'ai commencé par écouter mon père, et j'ai écouté mon père se plaindre de la formation des acteurs. Ça, j'ai entendu ça depuis que j'étais petit. Il avait toujours l'impression que les acteurs français n'étaient pas très bien formés, qu'il en avait assez en tant que metteur en scène d'avoir à leur donner la béquille. Il recherchait des acteurs indépendants qui aient, comme lui, il avait, qu'il avait peut-être aussi... amélioré au contact de Villard et de tous ces acteurs incroyables de la troupe légendaire du TNP. Il recherchait des acteurs qui sachent travailler par eux-mêmes, qui aient de l'imagination. Et donc au moment où il a fallu le bac en poche, obtenir une formation qui me semblait nécessaire parce que je l'avais tellement entendu se plaindre justement des acteurs français, j'ai choisi de partir à Londres. Parce que je voulais être tranquille aussi. Et c'était en 75, il avait arrêté d'être directeur du TNP en 72. Il était un personnage encore très présent sur la scène parisienne. Je voulais pas être le fils d'eux. Et puis mon rêve, c'était d'être un acteur américain. Moi, je voulais être Robert Redford, c'est très simple. Je voulais pas du tout faire du théâtre, je voulais être une star américaine. Donc, de toute façon, il était indispensable de devenir bilingue. Et là-bas, tout ça m'est tombé sur la tête parce que le premier jour de classe en Angleterre, je n'ai rien compris parce que mon anglais était extrêmement scolaire et je comprenais pas du tout ce qu'on me disait. Et puis surtout, on m'a dit, mais la première question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le théâtre? Et je n'avais absolument pas réfléchi à cette question. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le théâtre. Le théâtre, c'était une chose que je prenais comme une évidence. C'était un quotidien. Donc j'avais pas réfléchi à l'acte de jouer ou à l'acte de mettre en scène ou d'écrire pour le théâtre. C'était comme, je sais pas, vous demandez à un fils de plombier ce que c'est que la plomberie, il vous dira ben c'est la plomberie, c'est la plomberie quoi, c'est notre quotidien quoi. C'est ce qu'on fait. On va pas commencer à analyser la plomberie. Et là, tout un monde s'est ouvert à moi, c'est-à-dire l'histoire du théâtre, et c'était une école très particulière, très disciplinaire. J'avais passé une audition très longue, très très étrange qui enseignait on va appeler ça la méthode américaine. Il faut le dire parce que c'est un petit peu différent de ce qu'on peut imaginer des écoles anglaises qui sont très traditionnelles, où on va cultiver la langue shakespearienne et on va glorifier les jeunes acteurs dans leur style et dans leur statut de future vedette. Non, là c'était vraiment une école presque très à gauche, ouvrière, disciplinaire, et où on enseignait la méthode américaine, autrement dit, le système de Stanislavski, adapté par Lee Strasberg de l'Actor Studio de New York, et aussi une autre professeure fantastique qui s'appelle Uta Hagen, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle en anglais Respect for Acting, le respect pour le jeu, que je recommande absolument. Notre bible dans cette école. En fait, la méthode américaine fait utiliser l'expérience personnelle de l'acteur au profit d'un rôle. Disons que si on devait simplifier la technique française de la technique américaine ou anglo-saxonne, c'est que les Français font venir le rôle à eux et d'une certaine façon ramènent tout à eux. Je viens de voir la version en italien de Elvire Jouvet 40, interprétée au Théâtre de l'Athénée par Tony Servillo. Et en fait, Jouvet dit ça à son actrice qui joue Elvire. Il lui dit, mais arrêtez de n'imaginer que c'est votre histoire. Imaginez le sentiment du personnage, autrement dit, aller vers le personnage. Et les Américains, c'est pour ça qu'ils se transforment plus, on les voit au cinéma, ils sont toujours très différents d'un rôle à l'autre, parce que leur méthode consiste à utiliser leur vécu pour le mettre au service d'un personnage vers lequel ils vont aller, pour se transformer. Ça, c'est radicalement opposé. Et donc, j'ai passé 3 ans dans cette école où cette technique m'a permis finalement de réaliser le rêve dont me parlait mon père, c'est-à-dire d'être un acteur avec une méthode, un acteur qui peut travailler sans avoir besoin de professeur, qui a une méthode de travail.
Est-ce qu'on dirait que le théâtre du coup est très 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 différent du cinéma, que presque le théâtre serait l'inverse du cinéma du point de vue de cette méthode ? Comment on nourrit un rôle au cinéma, comment on nourrit un rôle au théâtre ? Est-ce que c'est vraiment différent ?
Je pense que les racines sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes notions de narration, de personnages, d'histoires qu'on raconte. On raconte une histoire et on est incarné. Voilà, on incarne des personnages. Les techniques sont très différentes. Bien entendu, à partir du moment où on doit raconter une histoire devant un groupe, dans un espace donné, on doit faire en sorte que tous les gens dans cet espace donné reçoivent la même information. Autrement dit, il faut aller jusqu'à eux et il faut être lisible. Il faut maintenant au Festival d'Avignon, les acteurs ont des micros, mais avant personne n'avait des micros, donc on doit faire en sorte de garder la subtilité de son interprétation et faire en sorte qu'elle atteigne les gens. C'est une technique très spécifique. Or, la caméra vient à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que la seule chose qui est véritablement différente, c'est que toute la partie de projection, la partie de l'expansion du jeu est formellement interdite. Car la caméra vient filmer à l'intérieur de votre tête. La caméra vient filmer la pensée.
L'intime.
Mais l'intime, la pensée, c'est le même point de départ pour l'acteur qui va jouer Hamlet sur scène. Si l'acteur qui joue Hamlet sur scène n'a pas la pensée du rôle, il ne le jouera pas bien. Simplement, il doit déployer cette pensée sur scène pour atteindre des gens qui sont loin, qui ne l'entendent pas très bien, qui ne le voient pas très bien, alors que la caméra simplement vient le chercher, sa pensée, dans son regard, dans un gros plan. Et en plus, avec les qualité technique de la prise de son, maintenant, on n'a plus besoin de projeter. Si vous écoutez les films, par exemple, de Carnet avec Arletty, avec Jouvet, les acteurs projettent parce que les micros étaient faibles et qu'ils sont presque comme au théâtre. Mais maintenant, les gens, on a des micros à chef qui sont près de nous. On peut murmurer. D'ailleurs, quand on joue la comédie devant des acteurs jeunes, ils parlent tellement bas qu'on ne les entend même pas, mais même moins que dans la vie d'ailleurs, parce qu'en fait, tout le monde murmure. Parce que c'est assez facile d'être bon quand on murmure tout. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'être bon quand on soutient la voix. Ça, c'était un autre problème.
On regrette de ne pas vous entendre plus souvent à la radio, dans les fictions radiophoniques. Mais est-ce que cette technique, cette formation que vous avez eue, ce que vous avez appris vraiment dans une école, avec des maîtres, je ne sais pas si on peut parler de maîtres, est-ce qu'on oublie tout pour jouer ou est-ce que c'est présent en soi quand même ? Comment on fait avec cette ce savoir-faire, ce
comment. J'ai l'impression qu'en fait, dans toutes les formations et pour tous les métiers, l'expérience vous apporte des réflexes, des raccourcis, et que ça devient une sorte de seconde nature. Il est évident que quand je lis une pièce de théâtre, je ne pense pas en termes de méthode. Je connais les raccourcis et les visions sont extrêmement intuitives de la façon dont je vais pouvoir puiser en moi ces émotions. Et le meilleur professeur, l'outil indispensable de l'acteur, et ça c'est ce que disait Jouvet encore dans cette pièce, enfin ce qu'il a dû dire dans ses leçons, c'est l'expérience de la vie. C'est-à-dire qu'en fait l'acteur, pour être bon, il doit avoir un bagage de vie et ne rien s'épargner. Car un acteur qui n'aurait pas vécu des choses ou qui aurait gardé des inhibitions ne serait pas capable de tout interpréter. Si vous devez jouer le roi Lear, si vous devez jouer Hamlet, je pense, on parle des emplois shakespeariens parce qu'ils sont démesurés tels qu'on les connaît, Macbeth, Coriolan. Je veux dire, à un moment donné, pour comprendre ce dont il est question, il faut l'avoir expérimenté. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir massacré des gens, mais peut-être il faut avoir eu cette tentation, ou en tout cas une émotion qui correspond à cette largesse de sentiments. Et en fait, curieusement, j'ai l'impression que le seul bagage qui a compté, et qui continue à compter, c'est simplement le fait de vivre. Et moi j'ai eu dans ma vie récente une grosse crise. J'ai vraiment fait une dépression très forte il y a quelques années et j'ai dû me reconstruire. J'étais explosé en mille morceaux. Eh bien, cette dépression qui m'a fait connaître la plus grande souffrance a été une réserve de munitions pour le jeu. J'ai l'impression qu'en fait, il fallait recevoir le plus de cicatrices possible pour devenir un bon acteur. Parce que alors, ça veut dire que l'acteur, il doit vivre des choses et se souvenir de ses expériences. Et observer la nature entière humaine. Moi, c'est ce que je passe mon temps à faire. C'est-à-dire que je ne suis jamais ennuyé, je m'ennuie jamais, parce que j'observe la nature humaine. Je suis fasciné par ce que portent les gens. Je vais regarder les chaussettes, la couleur des chaussettes de monsieur, savoir comment il s'est habillé, qui vit avec qui, quel est l'intérieur. J'imagine les intérieurs des gens. C'est une maladie, hein. Je veux dire, j'absorbe. Parfois, je suis obligé de marcher dans la rue en regardant par terre, parce que je me pose sans arrêt la question des êtres que je rencontre.
Est-ce qu'on est trop envahi à un moment?
Ah non, bien sûr. Il y a beaucoup de monde là-haut, hein. Oui. C'est vrai. Je suis en scooter, par exemple. C'est pour ça que je peux reconnaître à Paris des gens que j'ai croisés en scooter et je les revois dans un autre quartier. Parce que je suis sans arrêt en train d'observer les gens. Mais au carrefour, au feu rouge, j'observe les visages et je leur dis, ah ben, c'est quoi sa vie? Alors, voilà, il vient d'où, etc. Si je prends un avion, par exemple, je regarde les passagers et je les vois ensuite dans la ville. Les touristes qui se baladent, je les ai vus dans l'avion et je les retrouve dans la ville un peu plus tard. C'est un petit peu lourd, effectivement.
Est-ce que c'est ça qui pourrait aussi vous donner envie, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes aussi metteur en scène. Vous êtes arrivé aussi de choisir des textes que vous aimez, Roi Racine que vous aimez beaucoup, Musset, mais bon, je parlais aussi de Lagarce, mais ça veut dire guider, diriger des acteurs, prendre l'autre point de vue. Le metteur en scène n'est pas devant vous, c'est vous qui êtes le metteur en scène. Est-ce que c'est aussi une manière de faire vivre tout ce monde-là qui est autour de vous, avec vous, en vous
Au départ, j'ai voulu faire de la mise en scène simplement parce que je voulais jouer des rôles qu'on ne me proposait pas au théâtre et je voulais absolument jouer Octave, donc je l'ai mis en scène parce que voilà, personne ne me le proposait. Après, je me suis beaucoup intéressé à l'énergie que provoquait l'état du metteur en scène. C'est-à-dire que, curieusement, le faisceau d'énergie qu'un acteur utilise, qui sort de lui, il le dirige vers lui-même, puisqu'il est lui-même l'outil de son travail. Ce retournement du faisceau d'énergie vers soi-même, je le trouve assez hypnotisant, et curieusement, il m'endort. Et parfois, j'ai pas envie de résoudre mes propres problèmes. Alors, je fais ça de façon instinctive. J'aime m'amuser. Mais quand je dirige ce faisceau d'énergie vers quelqu'un, à ce moment-là, je ne suis plus endormi du tout, parce que j'essaie de résoudre le problème qui m'est posé par la présence d'un autre acteur. Résoudre une scène, intellectuellement, c'est passionnant. Et j'ai une énergie incroyable. J'ai beaucoup plus d'énergie quand je mets en scène, et je me lève avec beaucoup d'appétence le matin. J'ai renoncé un peu à la mise en scène récemment parce que je trouvais que les acteurs étaient compliqués. Oh là 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 là, ils sont compliqués, les Français surtout, ils sont compliqués.
Mettez en scène des Anglais.
Ouais, parce qu'en fait, les Anglais laissent leurs préoccupations personnelles dehors, au vestiaire. Ils ont.
Chez vous, préférez à la fin travailler avec des Anglais.
Non, mais c'est très étonnant d'abord. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup se transformer, donc ils sont plein de propositions pour. Et aussi, les Anglais sont toujours très enracinés dans une tradition de réalité humaine et sociale. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup les accents. Pour eux, un personnage n'est crédible que si on sait qu'il existe là, dans tel endroit, dans telle ville, dans tel siècle. Nous, on est beaucoup plus abstrait, on est plus intellectuel. On a un peu mal digéré les pancartes brechtiennes. Ceci est un banquier, ceci est un... On adore, parce qu'on a eu aussi une grande culture de certains poètes, d'une abstraction. Déjà, le 17e Racine, c'est déjà beaucoup plus abstrait que ce qui se passe au théâtre en Angleterre à la même époque. La comédie de restauration anglaise, elle est beaucoup plus colorée et sociale. Elle est très marquée dans ses caractérisations. Et donc, les Anglais, ils sont passionnants parce qu'ils adorent effectivement... que ça soit crédible comme un appartenant à la race humaine. Et puis je me suis aussi un peu lassé parce que comment dirais-je, on est trop poreux quand on met en scène et quand on joue, et que j'avais l'impression de ne pas appartenir au sérail des metteurs en scène protégés par la critique. J'avais l'impression que mes propositions étaient reçues extrêmement fraîchement par la critique. Et qu'à un moment donné, il faut un grand courage pour dire, allez, on continue, on en refait encore un autre, et on en refait un autre, alors qu'il y a une sorte d'establishment qui va dire, non, ça c'est de l'amateurisme, lui il est pas dans le sérail, il fait ça simplement de temps en temps. On est un pays de scission, hein, je veux dire, il y a beaucoup de clivages. Regardez ce qui se passe avec le théâtre subventionné, le théâtre commercial. En Angleterre, tout ça n'a pas lieu. Ce qu'il faut, c'est gagner sa croûte en Angleterre. Je veux dire, on va pas vous mépriser parce que vous faites une pièce commerciale, parce qu'on va respecter le fait que vous ayez un loyer à payer. En France, ah bon, vous avez joué avec Bernard Murat, vous avez quoi fait? Du show. Déjà, Pygmalion, c'est comme si on avait fait Momo crève pas le plafond, quoi. Il y a un côté, alors que ça m'énerve. Et j'ai senti que j'étais attaqué par une certaine presse, et par orgueil, j'ai décidé de m'enfuir un peu et de renoncer à ça.
Quand vous enfuyez, c'est uniquement l'Angleterre ou
c'est... Non, je m'enfuis dans d'autres activités. Je m'enfuis en faisant du cinéma, je m'enfuis en faisant de la comédie musicale. Tout à l'heure, vous avez parlé des spectacles de chant, mais c'est vrai que j'ai un peu trouvé mon équilibre avec la comédie musicale, en tout cas mon grand plaisir. Ayant renoncé au chant classique, je me suis dit, je vais me consacrer au chant pour acteur. Et j'ai eu la chance, en 95-96, à Londres, au Théâtre National, de jouer une comédie musicale avec l'immense actrice anglaise Judi Dench, que le public français connaît pour l'avoir vue dans le rôle de M dans James Bond, mais qui est une actrice de théâtre insensée. Ouais. Et on a fait cette comédie musicale qui s'appelle A Little Night Music, qui est l'adaptation du film de Bergman, Sourire d'une nuit d'été, faite par le grand compositeur américain Stephen Sondheim. Et là... C'est merveilleux. On partage l'effort d'acteur en trois directions. Le jeu, le chant, donc la musique et la danse. Ça, c'est vraiment l'équilibre créé en 28 avec Showboat, la première grande comédie musicale, de ces trois activités. Et puis, je l'ai refait en France. On a fait Candide de Bernstein, mis en scène par Robert Carson, qu'on est allé jouer à la Scala de Milan. Ça, c'est absurde. J'ai fait plein de films. Mon plus beau souvenir, ma plus belle médaille, c'est d'avoir chanté à la Scala de Milan, quand même. Candide, où je faisais Voltaire, le professeur Pangloss, en anglais, et Martin, le pessimiste. On a fait aussi une autre version de cette fameuse A Little Night Music, avec Leslie Caron. On a fait Le Roi et moi. Là, c'est du bonheur total. Parce que, une fois de plus, historiquement, à cause de cette origine de la musique dans la famille, un atavisme peut-être irlandais aussi, il faut que la musique soit présente dans mon quotidien d'acteur. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à rencontrer Alain René, pour qui la musique était fondamentale. Alain René choisissait son compositeur avant son directeur de la photographie et avant ses acteurs. Et Alain René était un dingue du fameux Stephen Sondheim. Et on a fait avec lui, on connaît la chanson, Pas sur la bouche, la très jolie opérette. Et la musique était au cœur de toutes les conversations qu'on avait avec Anne René.
Est-ce que vous avez des maîtres? On parlait du mot maître tout à l'heure. Est-ce que ce mot a un sens pour vous?
Oui, oui. En fait, l'autre jour, justement, je vais revenir à la pièce Elvire Jouvet, 40. Quand j'écoutais l'acteur italien Tony Servillo dire les choses de le texte de Jouvet sur le jeu, j'avais envie de pleurer tout le temps sur le. Ce qui m'émeuvait, c'était la recherche fugace, impossible à tenir de cette espèce de filon qu'est l'art dramatique. Ce que cherchent les compositeurs, les peintres, on cherche le beau, on cherche le sublime, et c'est tellement difficile, et ça nous échappe en permanence. Et là, il y avait cet homme, Jouvet, qui arrivait momentanément à le formuler, un peu à l'emporte-pièce parfois, de façon extrêmement habitée, autoritaire. Alors, les grands maîtres, je me suis dit, pendant le spectacle, c'était qui mes grands maîtres? Eh ben oui, j'ai rencontré des gens comme Lucien Pintilier. On a fait, c'était mon premier spectacle, 78, au Théâtre de la Ville, Les Derniers de Gorky, avec Emmanuel Riva. Un homme qui était vraiment issu de cette tradition de l'Est hongrois, donc lui hongrois, mais les acteurs polonais, hongrois, russes, allemands, sont tous formés de la même façon, des formations très très larges, très inspirées aussi par les travaux de Stanislavski. Au cinéma, André Téchiné, directeur d'acteur extraordinaire. Alain René, absolument. Mais il y a des metteurs en scène que je n'ai pas encore rencontrés ou avec lesquels je suis sur le point de faire quelque chose. Par exemple, j'ai rencontré récemment le grand metteur en scène allemand, Peter Stein. J'ai vu des productions de ses travaux, une pièce de Gorky, justement, Les Estivants, à Londres. J'avais vu à Londres avec les acteurs de la Schaubühne, Bruno Ganz, Edith Clever, Jutta Lampe. Mais ce sont des spectacles que je porte en moi toute ma vie. Et j'ai pu partager ça avec lui. Et il reste, c'est un maître, un directeur d'acteur extraordinaire. J'ai vu un oncle Vania qu'il avait mis en scène avec des acteurs italiens. Voilà, ça sont des maîtres. Et je pense que mon père, finalement, j'ai mis 40 ans à pouvoir le dire, tranquillement. Mais il a été un maître à penser phénoménal. On m'a souvent posé la question récemment au sujet de Cousteau, de savoir si c'était un monstre, parce que voilà, il est pas gentil avec ses enfants, etc. Même mon père n'était pas gentil avec nous, d'une certaine façon. Mais c'était des pères, Wilson et Cousteau, qui vous donnaient l'essentiel, qui vous donnaient une philosophie, qui vous donnaient un sens du beau, du dépassement de soi-même, de la liberté. C'était des gens qui vous disaient, mais ne sois pas un fonctionnaire, ne sois pas emprisonné dans une petite vie, prends des risques. Et je pense qu'il m'a dit des choses fondamentales, sur le théâtre, mais aussi sur la vie des hommes. Il m'a enseigné une sorte de dégoût de l'argent, par exemple, une sorte de désintéressement absolu de l'acquisition des biens matériels. Il s'en fichait complètement. Lui, c'était toujours l'idée, la construction d'une imagination qui l'intéressait. Le reste, il s'en fichait complètement. Mais la famille, il s'en fichait complètement aussi.
Il se fichait de la décentralisation.
Alors,
de...
C'était compliqué. Dans son histoire, c'est compliqué. Parce que, il a été un peu victime de ça. Il a vécu l'époque glorieuse de la grande équipe du TNP. Et c'était pas un homme d'écrit. Alors qu'on aime les théoriciens en France. C'est pour ça qu'on a glorifié Villa et glorifié Vitesse et glorifié Planchon. Et lui, c'est un homme qui a rempli des salles, qui a fait des mises en scène. C'était un acteur. Mais il a pas écrit de texte. Donc, on a sauté sa direction de 10 ans quand même où il a rempli des salles à Chaillot et à Avignon. Mais il y avait une amertume. Et je pense que l'explosion de mai 68, Et tout ce qui s'est passé ensuite dans la décentralisation, l'arrivée des troublions comme Chéreau, ça a été très douloureux pour lui parce qu'il, dans la génération de Villard, Wilson et d'autres, ils se sont sentis complètement incompris, rejetés, simplement parce qu'ils faisaient partie de l'establishment du moment. Mais c'était un establishment qui était allé auprès des masses, qui avaient vraiment travaillé pour un théâtre populaire, et subitement on leur disait, vous êtes l'establishment, donc dehors, on pourrait vous couper la tête. Et ils se sont jamais remis. Et mon père, je pense, est entré dans une phase de dépression et d'amertume qu'il a gardé jusqu'à pratiquement la fin de ses jours.
Il est resté lié avec Jean Villard jusqu'au bout?
Oui, bien sûr. Mais tout ça était très douloureux pour eux. Il y avait une grande, grande pudeur. Villard était son père électif. Mon père n'a pas connu son père et il a vraiment trouvé un père dans le personnage de Jean Villard. Et donc, ces hommes se sont retrouvés devant le théâtre de Chaillot en 68. Ils se sont fait cracher à la figure quand même. Et donc, ça a été une telle violence pour eux. Mon père est resté jusqu'en 72 après, mais toute cette musique a disparu. Alors après, il s'est concentré sur l'opposé exact de ces grandes messes populaires, c'est-à-dire qu'il a joué dans un tout petit théâtre, qui était le théâtre de l'œuvre, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours, des pièces à deux ou trois personnages, et surtout, ne voulant plus jamais rien demander au service public, au ministère de la Culture, voulant être totalement, totalement comme un artisan indépendant.
Si on revient à l'acteur et au travail de l'acteur, de votre acteur, vous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un secret de l'acteur ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles, justement, on n'a pas accès, dont il ne faut pas parler ou,
Ah oui, il y a des magies, mais ça, les professeurs vous en parlent souvent. Hein, ce qui marche pour vous, vous ne devez pas le révéler. C'est de l'ordre de la magie. C'est une sorte de transe et on sait ce qui marche pour nous dans notre imagination, il ne faut pas le révéler. Parce que ça perd de son pouvoir. C'est la superstition, vous savez, on dit qu'il ne faut pas parler de ses projets parce qu'il y a quelque chose qui s'évapore et c'est moins puissant à ce moment-là. Donc on utilise son vécu, son imagination et on fait plein de choses épouvantables à ses proches, hein, en imagination. Je veux dire, on coupe les gens en rondelles, on les massacre, on fait mourir plein de fois sa famille, ses proches, tout ça pour squeezer quelques gouttes d'émotion, c'est assez épouvantable. Le processus est terrible, mais tout ça est secret. En ce qui me concerne, il y a une grande part d'inconscience, et j'accepte des rôles, souvent, c'est une sorte de pulsion, Je ne réfléchis pas à la difficulté, il faut que je le fasse. C'est comme il a fallu que je fasse mon temps sur scène et que je chante. Quand j'étais petit, mes parents me disaient toujours « Ah, ah, attention, il est enceinte !» Ils disaient « Il est enceint d'une idée. » C'était, il fallait que je fasse du macomoulage ou je sais pas quoi. Enfin, c'était des trucs d'enfant. Mais j'étais possédé par ces envies-là et il fallait que je les vive immédiatement. C'est la même chose avec le cinéma, le théâtre, les rôles. J'ai envie de le faire parce que je sens instinctivement qu'il y a une connexion entre mon histoire et le rôle que je dois interpréter. Personnellement, si j'ai un secret, ce serait de dire que je considère qu'on a un panel, chacun en soi, je considère qu'il y a sept familles, c'est le jeu des sept familles en fait, et que moi j'ai déjà développé cette théorie suivant laquelle, en moi, ce que je peux proposer au metteur en scène, il y a un moine, il y a un chambellan, et il y a une sorte de torturé extrêmement dangereux et complètement bipolaire, et ça à chaque fois, je fais des variations sur ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, dans la variation moine, on va trouver ce que j'ai fait dans l'abbé Pierre, est-ce que j'ai fait dans des hommes et des dieux, et puis ça peut réapparaître dans d'autres rôles, mais qui n'auront aucun rapport avec la vie ecclésiastique. Mais ça fera partie de la section moine en moi. Moi, je sais que c'est le moine, donc je peux aller chercher mon moine Alors après, le grand chambellan, ça, il apparaît dans Jet Set, il apparaît dans des comédies. C'est un personnage très pompeux, très ridicule, qui fait partie de ma personnalité. Disons qu'on peut dire que les acteurs souffrent de ce qu'on appelle en psychiatrie les personnalités multiples. Hein. Ça fait partie de la schizophrénie en France, dans l'école de psychiatrie française. On a toutes ces personnalités en soi nous, c'est notre métier. On est payé pour les exprimer.
Est-ce que vous oubliez les rôles ou est-ce que vous oubliez
Totalement.
Les textes ? Est-ce que
Totalement.
Vous arrivez ?
Oui. J'ai une mémoire Kleenex. J'apprends très rapidement. Je peux apprendre une tragédie française en ce que j'ai fait, Bérénice, je peux l'apprendre en deux jours et demi. En revanche, j'ai joué 150 fois Ruy Blas, je ne peux pas dépasser. Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres, conseillers vertueux, aidez-moi. Voilà, c'est tout. C'est terrible, c'est lamentable. En revanche, j'ai une mémoire de la musique. Je me souviens jamais des paroles des chansons, mais la musique reste en moi. C'est très curieux. J'ai une mémoire des langues. Mmh. Quand j'apprends des mots dans des langues étrangères, ils restent définitivement. C'est très curieux. Mais je n'ai pas la mémoire des textes, heureusement.
Comment vous apprenez ?
J'apprends de façon très technique, vraiment très très froide. Ça vient très rapidement. Vraiment, je peux apprendre une scène le matin au maquillage de plusieurs pages. J'ai aucune fierté par rapport à ça. C'est Ce qui est dommage, c'est que je ne suis pas hyper amnésique. Ce qui est fabuleux chez Fabrice Luchini, c'est que Fabrice Luchini, il a une mémoire de folie. Pourquoi il est capable de tenir en haleine un public? C'est parce que tout ce qu'il lit, il s'en souvient. C'est-à-dire que donc il est capable de citer des poèmes entiers, des pages entières de texte. C'est un talent extrêmement rare qui n'a presque rien à voir avec le métier d'acteur. C'est autre chose. Alors, donc il a un stock permanent de citations. Et moi, je n'en ai aucune. Je ne peux pas vous raconter une histoire drôle. Mais pas une. S'il fallait sauver la vie d'un groupe de personnes et qu'on me demandait de raconter une histoire drôle, ça serait une douleur. J'ai pas de mémoire de texte, ni des événements de ma vie d'ailleurs. Ce sont mes amis qui sont les détenteurs de ma biographie. Moi, je ne sais absolument pas ce que j'ai vécu. Alors, ça, c'est aussi un rapport qui est intéressant par rapport au choix d'être acteur. C'est un rapport au temps qui est particulier. J'ai toujours considéré qu'une vie, c'était pas terrible. C'est trop court. Et que peut-être j'ai voulu être acteur pour démultiplier les vies. Ce qui fait que j'ai vécu une vie de chanteur d'opéra. J'ai été sur le plateau de la Scala. J'ai chanté quand même comme un chanteur d'opéra. J'ai fait des concerts avec des orchestres. J'ai chanté du Mozart. Ça, je l'ai fait. Mais j'ai été aussi conquistador au XVIe siècle. J'ai été aussi moine en Algérie en 1996. J'ai été... Tout ça démultiplie le temps sur Terre. Et je trouve que c'est génial. Et c'est une sorte de... Peut-être la clé de tout ça, c'est le stress fondamental qu'on a par rapport au temps qui passe et au fait d'accepter qu'on n'a qu'une seule vie. Donc on les démultiplie.
Ça veut dire que vous avez des émotions, par exemple, quand vous êtes moine de Tibérie, ou quand vous êtes Cousteau, enfin quand vous interprétez, vous jouez, vous n'êtes pas, c'est quelque part, je ne sais où d'ailleurs, vous pouvez tout d'un coup pris, submergé par une émotion comme si vous aviez éprouvé finalement.
Oui, mais on éprouve rarement, parce qu'il ne faut pas oublier que la technique vous gêne énormément, que jouer une scène d'intimité devant une congrégation de techniciens, voilà, imaginez qu'on joue une pièce intime, une scène intime, devant autant de techniciens que vous êtes de public là. Des gens qui vous regardent, ce n'est pas toujours très facile d'être dans le sentiment, alors qu'on se sent tellement observé. Or, il y a des moments de trouble où quand même, non seulement on a l'impression d'avoir voyagé dans le temps, là moi il y a un truc qui est génial, c'est que quand je tourne, je retire mes lunettes, déjà je vois beaucoup moins la caméra, je sais plus tellement où je suis, et là j'ai l'impression d'être véritablement dans l'époque que j'essaie de décrire. J'ai eu cette sensation-là justement au Costa Rica dans un film de Carlos Saura où on était conquistador en pleine jungle avec des Indiens et les caméras étaient cachées derrière de la végétation et on était en armure et il faisait 40 degrés, on était dans la jungle et là à un moment donné on se dit mais ah c'était comme ça, on est au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Et récemment dans le film L'Odyssée, quand Cousteau apprend la mort de son fils Philippe, là c'était curieux, j'ai eu un chagrin immense dans cette scène. Mais c'était le chagrin de Cousteau. Alors là, c'est là où je me dis, parfois, les frontières entre ses propres sentiments et le sentiment du personnage qu'on essaie d'incarner se fondent. Parce que le chagrin que j'avais n'était pas le chagrin que j'essayais de ressentir, mais c'était véritablement le chagrin de Cousteau pour son fils. Et ça m'a même surpris, parce que je ne connaissais pas Philippe Cousteau, et je n'ai aucun lien, je ne suis même pas père de famille. Mais j'avais un chagrin profond pour la perte de cet enfant. Et j'ai trouvé que c'était étonnant. Et ça arrive très rarement. Et parfois, on est touché comme ça par le... Peut-être ça arrive avec les êtres qui ont existé déjà, plutôt que les caractères de fiction. Quand on incarne un personnage qui a existé, peut-être on est visité momentanément par une émotion qu'il a vécue. Je crois beaucoup à ça. Et j'invoque d'ailleurs les personnages qui ont existé. Je leur demande l'autorisation de les jouer, par exemple. C'est une tradition thaïlandaise. Au moment où j'ai joué Le Roi et moi, une amie thaï m'a dit « Mais est-ce que tu as demandé l'autorisation au roi Rama IV, qui était mort, que je devais interpréter dans cette histoire, de pouvoir l'interpréter ?» Je dis « Ah non, je ne savais pas qu'il fallait... Mais si, en Thaïlande, il faut absolument, les acteurs doivent demander l'autorisation. Et on a fait une cérémonie avec de l'encens, une cérémonie thaï. Et je me suis dit, mais c'est très joli ça, bien entendu. Il faut demander à la personne qui n'est plus de ce monde et qu'on va incarner son autorisation. Parce que ça crée un lien avec l'être qu'on va incarner. Et peut-être qu'on va avoir une compréhension plus intuitive de sa personnalité. On va recevoir des secrets. Moi, j'aime beaucoup ces choses un peu occultes.
Lambert Wilson, est-ce qu'il y a des rôles que vous n'avez pas joués, donc que vous rêveriez de jouer, avec des autorisations à demander, justement, à certains, ou des personnalités, ou des rôles de théâtre?
Alors, j'ai regretté de ne pas jouer les grands héros romantiques au théâtre. J'aurais adoré jouer Hamlet, j'aurais adoré jouer les rôles plus juvéniles dans Shakespeare. Roméo, je sais pas, c'est pas mal Roméo, mais c'est pas vraiment... Non, Hamlet, oui, ça m'embête, et maintenant c'est raté, c'est trop tard. Mais,
pourquoi vous dites ça?
Non, Hamlet, c'est trop tard. Mais on m'a proposé de jouer Polonius, le père d'Ophélie, et je trouve ça génial d'arriver vers les vieux. Parce que dans les vieux shakespeariens, il y a des personnages... vraiment qui me font rêver. Prospero dans La Tempête, le roi Lear, ça c'est, j'ai du temps hein, encore, mais j'aimerais beaucoup faire ça. Il y a un répertoire théâtral qu'on connaît, et c'est vrai que j'adorerais jouer ces personnages shakespeariens. Il y a certains personnages dans le répertoire français classique pour lesquels je me sens fait, notamment chez Molière, que j'ai pas pu faire. J'ai fait des extraits du Misanthrope avec... dans Alceste à bicyclette, et j'ai adoré
avec,
ça.
Avec Fabrice Lucchini, c'est un film savoureux, je dois dire. Beaucoup aimé.
Sinon, dans l'imaginaire des metteurs en scène qui font du cinéma, on ne sait pas ce qui va être leur obsession. Il y a un emploi qu'on ne m'a jamais demandé de faire, parce que les gens considèrent que je suis bien élevé, alors je suis très bien pour jouer les banquiers, par exemple, les diplomates, les ministres, les curés. Ça, c'est très bien. Et y a un emploi que j'ai, et je se pressens en moi, c'est peut-être la dernière carte du jeu de cette famille, c'est le paysan. Et en fait, je suis un homme de la terre, et je suis un homme qui a été élevé à la campagne, et je suis un homme beaucoup plus rustique qu'on imagine, et je voudrais raconter ça, et jouer des personnages, mais plus au cinéma ou à la télévision, par exemple. Aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le monde rural. J'adorerais... faire une série sur la réalité des cultivateurs, sur la réalité des gens de la terre. Alors après tout, moi je les connais, les cultivateurs. J'ai une maison en Bourgogne, je connais très bien les cultivateurs. Il y a de tout dans les cultivateurs. Les cultivateurs, c'est pas forcément le cliché du type qui est rude, qui mesure 1m50 et qui a des mains calleuses. Il y a de tout chez les cultivateurs. Donc je voudrais un rôle d'homme de la terre.
Lambert Wilson, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien.
Déjà
oui, encore quelques minutes. Je me demandais, est-ce que jouer tous les soirs...
Je crois que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite dans la vie et que j'aime bien avoir à résoudre des choses difficiles, en fait. Et que, pour moi, au théâtre, on résout des choses difficiles pendant les répétitions, et ça, c'est passionnant, pendant les premières représentations, pendant 25 jusqu'à 50 représentations, on est dans cette énergie d'avoir à résoudre quelque chose qu'on ne comprend pas encore, et même si on est devant le public, on ne le comprend pas encore, et ça, c'est passionnant. À partir du moment où l'activité ne consiste plus qu'à reproduire ce qu'on a compris, là je m'ennuie très rapidement. C'est pour ça que j'ai eu tendance à trouver plus un rythme juste au cinéma par rapport à ma faculté à m'ennuyer rapidement. J'ai besoin d'être stimulé très régulièrement par des nouveaux horizons, et le cinéma correspond bien à mon rythme intérieur. J'aime bien voyager, j'aime bien que les stimulations soient sans arrêt différentes. Mais il n'empêche qu'il y a des personnages qui sont difficiles au théâtre. Par exemple, j'avais fait une pièce mise en scène par Harold Pinter, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Ashes to Ashes. Et on l'a joué pas très longtemps, peut-être 40 fois à Paris, au Théâtre du Rond-Point. Mais c'était une énigme. Et à la dernière représentation, on n'avait toujours pas compris la pièce. Et Harold Pinter s'était bien gardé de nous donner le sens de la pièce. Ça, c'est passionnant. C'est toujours remettre tout sur le tapis et d'être en danger. Sinon, je comprends pas les acteurs qui jouent une pièce pendant 300 fois. Je ne comprends pas, parce qu'on n'a pas autant de pièces que ça à jouer. Si on joue une pièce pendant un an, moi, ça fait pas beaucoup de pièces dans une vie. Je dirais, donc, en fait, peut-être je suis boulimique simplement parce que j'ai l'impression que le temps m'est compté et qu'il faut démultiplier le genre d'expérience. pour rester en vie. Et puis je crois que c'est une politesse envers le public aussi. C'est-à-dire que je crois que si on fait toujours la même chose, le public se lasse aussi. Je crois que ce qu'ils ont compris avec moi, c'est que je leur réserve des surprises. C'est que je vais faire d'un côté Palais Royal, où je vais faire un prince idiot comme ça, qui fait des scènes en slip, et puis après je vais faire effectivement un moine tragique, et puis après je vais faire Cousteau, et puis après je vais faire le Marsupilami, où je vais me déguiser en Céline Dion. Donc ils se disent, ça va être quoi. Mais c'est une politesse envers le public et une façon pour moi aussi de rester aux aguets, quoi. Et je crois que peut-être que la clé, et je suis pas très fier de moi, c'est l'ennui, hein.
Alors, une dernière question, parce que nous sommes ici à Angers, au festival Premier Plan, et c'est ce festival qui a inventé les lectures de scénarios. Mmh. Des moments tout à fait exceptionnels pour le public, pour les acteurs, pour les scénaristes. Ça, par exemple, c'est un exercice d'acteur, une aventure d'acteur, un moment pour un acteur, je pense, tout à fait extraordinaire. Lire tout seul, tous les rôles.
Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, c'est un défi difficile, et surtout parce que on ne sait pas du tout, là aussi, tout est surprise, comment tenir l'attention des gens pendant 2 heures, voire plus. J'ai adoré faire ça ici. Et presque, il faudrait que le scénario soit une surprise pour le lecteur et que on soit obligé de s'adapter sur place aux exigences du texte. Ne pas savoir à l'avance ce qu'on va lire, ne pas travailler pour justement être en danger maximal. J'adore ça. Mais en fait, j'aime beaucoup lire en public. J'aime beaucoup lire avec des musiciens aussi. J'aime quand la voix de l'acteur devient un instrument comme d'autres instruments solistes. Et puis aussi que la voix puisse, dans l'imagination de celui qui écoute, créer des paysages, créer des images. Chacun à ce moment-là, dans le public, devient metteur en scène, s'imagine un film, se fait son propre film. Vous savez, quand je reçois des scénarios, très souvent, je suis un mauvais metteur en scène. C'est-à-dire que j'imagine toujours que le film que je lis, il est mal mis en scène. Et parfois, il m'arrive de dire non à des scénarios parce que je les ai lus en les mettant mal en scène dans mon imagination. Et il m'est arrivé d'assister à des lectures avec d'autres acteurs, surtout pour les comédies. Les comédies, je les lis toujours très mal en moi-même. Et puis, ces acteurs étaient réunis, je me souviens que c'était pour Jet Set, ça... Et chacun défendait sa partition le mieux possible. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est pas mal, finalement. Ah, bah oui, ils ont mieux mis en scène que moi ces scènes que j'imaginais de façon banale, en fait. Les lectures à vue, comme ça, m'envoient des munitions comme ça au public qui doit, lui, se créer ses images. Je trouve ça passionnant.
Lambert Wilson, merci pour ce moment tout à fait exceptionnel pour moi, en tout cas, que vous avez offert, parlant de façon si généreuse.
Merci.
C'était la masterclass de Lambert Wilson avec Blandine Masson. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Vanessa Nadjar.